Alors David est inspiré par le Saint-Esprit, je pense, ce matin, puisqu'il n'a cessé de parler de la joie. Je pense que j'ai transmis la structure, l'ossature du message au pasteur André. Et ce matin, je voudrais parler de la joie. J'étais partagé sur deux messages, pour vous dire. J'avais effectivement le message sur la dimension de la grâce de Dieu. Je voulais vraiment qu'on puisse. Je voulais travailler justement. Actuellement, on fait l'étude, c'est effectivement interactive, sur Paul, sur ses lettres. Nous avons eu la joie justement d'avoir aussi Émile Nicole, le doyen de la FTE. FTE, c'est la Faculté libre évangélique de Vaud. Et il a pu justement nous faire une introduction sur Paul et ses écrits. Et c'est vrai que j'étais beaucoup travaillé sur Tite, chapitre 2, justement sur la dimension de la grâce de Dieu. Et puis j'avais ce deuxième message, vivre la joie du Seigneur. Et je me suis dit, bon, le Seigneur, certainement, je me suis dit, ce message a eu pas mal d'impact. J'étais invité en live avec Yanis Gauthier il y a quelques semaines de cela, où je parlais justement de la joie. Et je me suis dit, certainement ce matin, ce message va retentir dans nos cœurs. Parce que je pense que la joie est une réalité vraiment évangélique, biblique. La joie n'est pas simplement un instant d'euphorie très secondaire, d'euphorie parce qu'on arrive à la fin du mois où on sent que les comptes sortent du rouge. Non, mais la joie fait partie du cœur de Dieu. La joie fait partie du cœur de Dieu et je voudrais ce matin vraiment qu'on puisse vous prendre quelques minutes, qu'on puisse réfléchir ensemble justement sur cette dimension de la joie et comment garder cette joie parce que c'est une denrée rare, la joie. C'est une denrée rare. Et je voudrais vraiment encourager quelqu'un ce matin de ne pas mettre cette joie de côté parce que la joie, effectivement, de Dieu est notre force. Est notre force. C'est pas moi qui le dis, Néhémie chapitre 8. Néhémie chapitre 8. Bon, j'essaie d'être à la page. Hein. Aujourd'hui, voilà, je suis numérique, hein, mes frères et sœurs. Si vous ne me voyez pas avec une grosse Bible comme l'ont fait nos pères, voilà, j'ai la Bible version second numérique. Néhémie chapitre 8 à partir du verset 9 à 10. Je fais la lecture. Néhémie chapitre 8, verset 9 à 10. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur et les scribes, et les Lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel, votre Dieu. Ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tous les peuples pleuraient en entendant les paroles de la loi. Verset 10. Il leur dit, allez, mangez des viandes grasses et buvez des liqueurs douces, et envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparer, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Amen. Nous allons prier. Seigneur, merci. Merci parce que ce matin, ce n'est pas le pasteur Nonge, Seigneur notre Dieu, qui va s'exprimer, mais c'est toi, Seigneur Saint-Esprit. Seigneur, que ta gloire, Seigneur, s'exprime au contact de la prédication de la parole ce matin, que je puisse disparaître, que l'intellectualisme disparaisse en moi, que, Seigneur, peut-être les capacités oratoires ou les qualités qui ont été énumérées à l'introduction disparaissent ce matin, que le Saint-Esprit seul puisse parler. Oh, que le Saint-Esprit parle comme le sang de Jésus qui a parlé bien plus que le sang d'Abel, Seigneur. Que ce matin, tu disposes nos cœurs, tu l'as déjà fait à travers, Seigneur, ce temps préparatoire, ce temps introductif où nous t'avons loué en esprit, en vérité, nous t'avons apporté nos dîmes et nos offrandes, Seigneur, maintenant, tu vas nous parler et tu veux nous parler. C'est poussé par l'esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Que ce matin, ta parole puisse trouver l'écho à nos cœurs, ta parole puisse, Seigneur notre Dieu, nous interpeller, ta parole puisse nous encourager, que ta parole puisse réparer certainement un cœur contrit, un cœur meurtri, un cœur, Seigneur notre Dieu, dans les pleurs ce matin, que la puissance de ta parole apportée par le Saint-Esprit trouve écho, Seigneur, restaure, Seigneur notre Dieu, dans les noms puissants de Jésus. Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom seul, donne gloire au nom puissant de Jésus. Amen. Dans cette lecture de Néhémie 8, on voit la restauration du culte. Hein, parce que Quand vous lisez le livre de Néhémie, les sept premiers chapitres, vous voyez effectivement un peuple détruit, les lieux de culte détruits. On sent qu'il y a là effectivement une forme d'apostasie, une forme d'aridité spirituelle. Le peuple de Dieu est dispersé et Néhémie, face à cela, il pleure, il dit « mais ce n'est pas possible, je ne sais même pas où sont enterrés mes pères, je ne sais même pas où sont mes frères ». Et pourtant, il a une belle responsabilité à la royauté, mais Néhémie ne voit pas cela, il voit effectivement l'intérêt de Dieu. Et je pense que c'est important pour nous de ne pas louper cela. Si nous sommes vivants, si nous sommes ici, c'est pour pouvoir avant tout effectivement contribuer à l'intérêt, à l'avancement du royaume de Dieu. Et Néhémie, en son temps, peut-être le terme royaume n'était pas encore impliqué, mais il avait ce souci justement du royaume de Dieu. Et Néhémie voulait rebâtir les murailles. Il voulait justement rebâtir, non pas seul, mais avec le peuple. Et je pense que c'est vraiment important, cette dimension d'unité. Le pasteur seul, avec son épouse et sa famille, ne peuvent pas tout faire tout seul. Mais il y a besoin de ces familles, il y a besoin de ces personnes qui ont des qualités, de ces personnes pratiques, des personnes qui ont des différentes connaissances. Néhémie en avait besoin, il avait besoin effectivement des ébénistes il avait besoin de telle famille. Et j'aime beaucoup, si vous lisez la suite effectivement des chapitres, à un moment la Bible nous dit qu'il y a une famille à côté d'une autre, alléluia. Et ça, c'est important, cette notion d'être à côté de l'autre. Nous sommes ensemble, quelles que soient nos cultures, nous sommes ensemble. Notre frère de Bénin, nous sommes ensemble. Notre frère Ch'ti ou sœur Ch'ti, nous sommes ensemble. Moi qui suis issu du Congo Kinshasa, nous sommes ensemble pour contribuer dans cette œuvre. Voyez, voilà, Néhémie avait cette vision d'unité. Et il a pris les risques, il est parti voir le roi. Il a pris les risques, il a pu avoir effectivement des différentes autorisations, de l'autorité. Ça aussi, c'est important. Vous voyez, souvent aujourd'hui, on veut diaboliser l'autorité, on veut diaboliser tel responsable, tel préfet, tel maire. Non, Néhémie a pu justement véhiculer un bon témoignage. Et son témoignage a permis même le roi de lui donner les mandats pour aller inspecter, pour aller parler de sa vision. Et on voit dans ce chapitre 8 l'instauration, la restauration effectivement du culte. Et je pense que c'est important, mes frères et sœurs. C'est vrai que nous sommes confrontés à cette loi de séparatisme, où le culte est quelque part un peu menacé. Vous savez, ça ne date pas de maintenant. Hein, à l'époque des Néhémie, il n'y avait plus de lieu de culte. C'est pour ça que lorsque le peuple entend la lecture justement de la loi, le peuple pleure, le peuple est affligé, parce que le peuple s'est dit certainement, ça fait tellement longtemps. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas entendu la parole de Dieu. Ça fait tellement longtemps que j'ai complètement, peut-être, je ne sais pas si c'est la Xème génération, mais ils se rendent compte que la transmission certainement n'a pas été respectée. Cette transmission de la parole n'a pas été respectée. Et Néhémie, avec Esdras, le scribe, vont lire la parole de Dieu. Et cela est important, mes frères et sœurs. Notre rôle en tant que parents, notre rôle en tant que grande sœur, notre rôle en tant que grand frère, notre rôle en tant qu'arrière, grand-parent d'abord, arrière après, notre rôle en tant qu'effectivement église, c'est de pouvoir perdurer justement ce message de l'évangile à la nouvelle génération, à nos enfants, à nos petits-enfants, de ne pas nous fatiguer de transmettre cette parole et puis de ne pas édulcorer la parole. On veut souvent maquiller la parole. La parole est la même, alléluia. Parole de grâce, parole d'amour, parole effectivement qui vient convaincre le cœur du péché, de justice et de jugement. Parole qui dit que oui, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu, alléluia. Parole qui vient enthousiasmer nos cœurs. Et on voit cela, on voit que le peuple est dans les pleurs, dans les larmes. Et on voit les serviteurs de Dieu vont encourager. Il y a là cet agape extraordinaire, bon. C'est vrai que quand on parle de liqueur douce, voilà. Bon, j'aime souvent rayer un peu cela. J'aime pas trop insister sur l'alcool, mais parce que certains chrétiens, amen, pasteur, c'est dans la Bible. Là, je dis oui, mais bon, voilà, soyons équilibrés. Cette lecture, c'est un double tranchant de foi, hein, ouais. Mais on voit cette dynamique familiale du corps de Christ, de se retrouver ensemble, manger ensemble. Je pense que par la grâce de Dieu, après le confinement, vous vivrez ce temps d'agape. Et puis on voit cette parole très forte sur la joie. Dernière alinéa du verset 10, où la parole de Dieu nous dit « Car la joie de l'Éternel sera notre force. » Ouais. Ouais, la joie est une force. La joie est ta force, la joie de Dieu. La joie du Seigneur, ça c'est important. Ce n'est pas une joie éphémère. C'est une joie qui dure, qui perdure, qui avance. Ça c'est important. Parce que cette joie découle du cœur de Dieu. Et nous allons, tout à l'heure dans le développement, nous allons voir que le Saint-Esprit, parmi le fruit de l'Esprit, il y a la joie. Il y a la joie. Et cette joie, Dieu nous donne la joie. Il nous donne la joie. Et quelqu'un a parlé tout à l'heure, nous sommes des administrateurs, nous sommes des gestionnaires. Et que faisons-nous justement de cette joie que Dieu nous donne ? Oui, ta joie sera ta force. Face à la morosité actuelle, ambiante, on voit la peur, torpeur, c'est vrai, on stresse, on le voit. Et nous, les hommes de Dieu, on réfléchit à chaque jour, est-ce qu'on doit maintenir les cultes ou pas ? Hier encore, j'ai reçu quelques versets, quelques SMS, pasteur, il faut arrêter, il faut... Voilà. On est là, on est face à cela, mais je pense que la joie de Dieu nous accompagne. Vous voyez, une famille où il y a la joie, c'est une famille unie. Une famille où il y a la joie, les enfants sont pressés de rentrer à la maison. Une famille où il y a la joie, le mari est pressé de rentrer à la maison. Il ne perd pas son temps dans les cafés ou bien dans les coins avec les collègues, vice-versa. Une famille où il y a la joie, il y a l'approbation de Dieu. Parce que cette joie est véhiculée à l'instar du témoignage de notre frère auprès de cette dame qui vivait les derniers instants de sa vie. Parce qu'elle a vu la joie qui émanait à travers son serviteur. Et je pense que la joie est importante, mes frères et sœurs. La joie est notre force. Et cette force nous permet justement, comme le bouclier, comme la ceinture, comme l'épée, cette force nous permet justement chaque jour, comme le Seigneur le dit, que à chaque jour suffit sa peine, je pense qu'aussi à chaque jour suffit notre joie. Dieu est celui qui veut nous rendre joyeux. On parle dans les synonymes de la joie, il y a l'enthousiasme, il y a l'optimisme, tout ça. Et ça, c'est important. C'est important. C'est vrai qu'aujourd'hui, bon, après, de l'aspect philosophique, on dit, ben voilà, les chrétiens, surtout évangéliques, voilà, manifestent des joies, c'est très primaire, voilà, c'est très secondaire, voilà, la joie, écoutez, mais pas tout le temps, quand même, soyons réalistes, regardons ce qui se passe quand même, le Covid est là, les chiffres, ben, il y a pire que le Covid, je ne dévalue pas du tout la pandémie. Mais je pense que voilà, il y a la dépression qui est là, il y a beaucoup de choses qui se passent. Moi qui ai travaillé longtemps auprès des personnes schizophrènes, auprès des personnes autistes, en tant qu'enseignant, en tant que prof DPS, j'en ai vu effectivement des familles dévastées par les handicaps. Mais au-delà de tout cet aspect très 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 hautain, très voilà. Moi, je me dis que ma joie, la joie de Dieu, je ne veux pas mettre cette joie de côté. Mais je vais vivre cette joie au quotidien. Je vais manifester la joie. C'est vrai que le visage ne peut pas être souriant tout le temps, mais la joie demeure. Alléluia. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'extraordinaire. Je voudrais faire cette deuxième lecture avec vous dans le psaume 126. Là aussi, c'est un psaume que j'affectionne particulièrement, je pense vous aussi. Le psaume 126. Voilà, il n'y a que 6 versets dans ce psaume. La parole de Dieu nous dit, cantique de degrés, quand l'Éternel ramena les captifs des Sions. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie des cris de joie et notre langue des chants d'allégresse. Alors on disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Nous sommes dans la joie. L'Éternel ramène nos captifs comme des ruisseaux dans le midi. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chants d'allégresse. Celui qui marchait en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses gerbes. Amen. Alléluia. Ça, c'est extraordinaire. Il nous décrit la notion de la joie qui est quelque part un peu reliée par rapport à la bénédiction de Dieu, par rapport à l'extraordinaire intervention du Seigneur. On nous parle d'ici d'un peuple captif, on nous parle d'ici d'un peuple esclave. Vous savez, il y a tellement de captivités autour de nous, Hein, ce n'est pas simplement la captivité, ce n'est pas simplement ces pays qui sont sous la dictature où nous voyons certains présidents, pas plus tard qu'il y a quelques semaines, plus de 35 ans de règne. Hein, et voilà, et puis il est là comme cela en Afrique centrale. Et ce qui est aberrant, c'est que la veille de vote, à chaque fois, il n'y a plus d'Internet. Et on dit que c'est des votes effectivement numériques. Hein, il n'y a plus d'Internet. Systématiquement, ça fait 36 ans, c'est la même chose, dans l'impunité totale, parce que ça arrange certains intérêts géopolitiques. Je ne suis pas là pour faire la politique, mais tout cela pour vous dire que la forme de captivité, ce n'est pas simplement une captivité physique. Quand la chose devient physique, c'est qu'elle a déjà fait le travail intérieurement. C'est que la chose a fait le travail, on devient esclave de ce qui a dominé notre vie, la Bible nous dit. Et il y a plusieurs formes de captivité. Et ce matin, je voudrais dire à un frère ou une sœur, peut-être ce matin, tu es effectivement captif ou captive de la morosité. Tes humeurs sont changeantes. Parce que tu te laisses effectivement assaillir par des éléments extérieurs. Peut-être tu es captif ou tu es captive du stress. Ou peut-être tu es captif ou captive de d'autres éléments spirituels que toi seul tu sais. Il y a des liens, hein, des liens, des choses qui ne glorifient pas Dieu. Mais je voudrais te dire ce matin, il y a une bonne nouvelle pour toi. Alléluia. Jésus-Christ n'a pas changé, la Bible dit. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et que par la puissance de sa parole ce matin, tes verrous de fer peuvent être brisés au nom puissant de Jésus. Le Seigneur désire, comme il l'a fait à l'époque, dans ce cantique de degrés du psaume 126, le Seigneur veut te faire sortir de ta captivité, alléluia. Il veut que tu retrouves la joie de vivre, alléluia. Il veut que tu retrouves cette joie de pouvoir contempler les merveilles de Dieu ce matin, au nom puissant de Jésus. Et ça, c'est merveilleux, cela. Et on voit le peuple qui se réjouit. Et vous savez, quand on est captif, quand on est esclave, on est emprisonné, dès qu'on sort, des fois, on ne croit pas. Ça peut être la maladie et autres. Mais ici, les psalmistes parlent même d'un rêve, alors qu'ils sont libérés. Le peuple d'Israël a été libéré depuis de 400 ans d'esclavage. Mais lorsqu'ils marchaient avec Moïse, ils étaient encore en Égypte. Hein. Et il y a des peuples de Dieu comme ça. On est affranchi, on est libéré, mais notre esprit est toujours resté esclave. Puisque c'est le même peuple qui dit, mais en Égypte, on avait ça. En Égypte, on avait ça. Mais tu n'es plus sous les règnes de l'Égypte. Tu es libre. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. La vérité vous rendra libre. Et cette vérité est véhiculée par la prédication de la parole. Ce matin, sois libéré. Ce matin, retrouve ta joie de vivre. Et il y a une dimension encore bien plus profonde aussi. On nous parle de l'allégresse. On nous parle de l'allégresse. L'allégresse qui est vraiment une joie extrême. Quelque chose qui ne s'exprime pas intellectuellement, même émotionnellement. C'est quelque chose qui se vit, l'allégresse. Et cette allégresse est faite parce que le Seigneur a inscrit notre nom dans son livre de vie. Il y a cette allégresse que le Saint-Esprit nous communique. Paul, dans 1 Thessaloniciens 5, verset 16, nous dit « Soyez toujours joyeux, soyez toujours dans la joie. » Et la joie que je voudrais développer avec vous ce matin, c'est cette joie qui perdure. Et la définition de la joie nous dit que c'est une émotion agréable et profonde. Un sentiment exaltant ressenti par toutes les circonstances. L'expression « la joie de vivre » désigne le bonheur que ressent une personne à être en vie, l'optimisme. Et je pense que notre bonheur dépasse le bien matériel que nous pouvons recevoir sur cette terre. Notre bonheur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Notre bonheur s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et le fait simplement de, chaque matin, avoir la vie, le mouvement et l'être, c'est de dire merci Seigneur. Parce que tu me permets d'être en bonne santé. pour ceux qui sont mariés. Tu me permets de voir mon épouse. Vous savez, le Proverbe 31, on nous parle des hommes le matin. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? La Bible dit, la femme vertueuse, son mari la loue. Hein. Alors, je ne sais pas si nous, les frères, le matin, on fait des louanges à nos femmes. Hein. Des fois, est-ce qu'on les regarde même des fois? Des fois, nous, les pasteurs, tout de suite, on se réveille. Qu'est-ce qu'il y a encore comme... Alors que notre fonction, c'est de louer notre épouse. Ah, les sœurs, je m'attendais à des amen plus vivants quand même. Hein? Oui, le bienfait de la joie. Le bienfait de la joie. La joie fait du bien à notre cœur. La joie renforce notre cœur. Choisir de vivre la joie, quelqu'un disait, Spinoza disait que choisir de vivre la joie sans mauvaise conscience, c'est vivre loin des passions tristes. Ce philosophe, théologien, rationaliste, écupérien, juif, portugais, Baruch, Spinoza l'a dit, c'est de fuir les passions tristes. C'est de vivre vraiment dans une bonne conscience, de ne pas confondre, comme je le dis, la joie et la distraction. Parce que là aussi, il y a souvent une confusion. Cultiver la joie, c'est d'apprécier chaque jour des bonheurs simples. Des bonheurs simples d'avoir la vie. Moi, j'aime beaucoup, je suis dans un petit village, je suis un Vexinois, j'ai fait mes études dans le Vexin, je me suis marié dans le Vexin, j'habite dans le Vexin, j'aime le Vexin. Et c'est vrai que le matin, c'est agréable d'entendre les chants des oiseaux quand même. Quand on a ce privilège. Vous savez, des fois, tout cela, là, certains même, il fait beau, ben, pour eux, il fait gris, quoi. Hein? Les oiseaux chantent, ça devient agaçant. Ton mari te chante à côté où elle est là, et puis toi, tu es là. Arrête, tu chantes faux en plus. Non, cultiver la joie, c'est d'apprécier. D'apprécier chaque jour. D'apprécier les bonheurs simples que Dieu nous donne. D'avoir la famille pour ceux qui ont ce privilège. D'avoir une épouse ou un époux pour ceux qui ont ce privilège. D'avoir des enfants et des petits-enfants. Je t'ai réjoui lors justement d'implantation de ces arbres, de voir André venir avec ces gars-là, c'était super. Ça m'a vraiment réjoui, je voulais le partager. Il était là et puis les mômes, ils étaient là. Vous savez, ils ont plein de pêche. Puis la terre et les enfants, c'est quelque chose de particulier. Toucher la terre, c'est cela. Dans la psychologie, on dit c'est revenir à la matrice en fait. Et c'est important et voir les enfants, ils étaient là en train de courir. Papy qui était là, doucement mes amis, et ça courait de partout, restait au Miro, et c'est vraiment extraordinaire. Voilà, c'est des moments de bonheur, mes frères et sœurs. C'est ces moments-là qu'il faut apprécier, parce qu'on ne peut pas rattraper le temps passé. Mais à chaque jour, on peut vivre. On peut remercier Dieu pour l'épouse qui est à côté de nous, même si c'est vrai que souvent les oreilles, ça huit un peu, c'est difficile, des fois ça chemine, ça crie, ça parle, mais c'est ça, mais c'est bon, c'est bon. Moi, des fois, quand ma femme n'est plus là, je me dis, mais c'est calme, qu'est-ce qui se passe? Chérie, tu reviens quand? Et dès qu'elle revient, c'est parti, voilà. De voir les enfants courir partout, mais prendre la tête avec eux, avec les jeux, les Fortnite, c'est cela, c'est la vie, c'est la vie. Ça fait partie du bonheur. Ça fait partie de ces moments extraordinaires. Vous savez, quand on perd ce temps, ça ne sert à rien. Aujourd'hui, on nous parle d'être millionnaire, être ceci, cela, mais c'est bien beau. Mais une fois que tu as tout ça, après, il te faut quoi? Quoi d'autre encore? C'est la cupidité, c'est l'avidité, tu veux encore plus, plus. Alors que quand tu apprécies ces moments simples, ces bonheurs simples, tu rends gloire à Dieu. Oui. Tu remercies le Créateur. Tu remercies le Dieu qui t'a donné ta femme et ton mari. Tu remercies le Dieu qui vous a donné, parce que les enfants, ce sont les fruits de vos entrailles. C'est la bénédiction du Seigneur, dira le psalmiste. C'est la récompense de Dieu. Et c'est important. Le travail que tu as, c'est une bénédiction du Seigneur. Occupe-toi de ton travail. Sois sérieux si tu es fidèle dans les petites choses et Dieu t'élèvera. Il t'élèvera, il te placera parmi les hauts. À Dieu soit toute la gloire. Amen. Alors, c'est bon? Ok. Je voudrais maintenant parler de deux éléments pratiques pour maintenir cette joie. Parce que c'est une joie qui perdure. Mais dans notre monde, il y a des voleurs de la joie, il y a toutes ces réalités spirituelles, des situations qui viennent comme saper, comme nous voler la joie. Et je voudrais ce matin qu'on puisse s'arrêter sur deux éléments, voire plus, qui pourront nous aider justement à pouvoir garder cette joie qui perdure. Premier élément, c'est très simple, c'est de prendre la décision de développer une attitude de pensée positive. Bon, on n'est pas du tout on n'est pas dans l'aspect psychologique, hein, ça c'est important. Parce qu'on nous parle aujourd'hui, oui, la pensée positive, mais ça a été volé dans la Bible, hein. Oui, mais il faut revenir quand même à l'essentiel, quoi. Parce que c'est vrai, quand je suivais les cours de psycho, on me parlait de la pensée positive, on nous parlait de ceci, cela, on nous parlait de la communication non violente, tout ça. Mais je me dis, mais c'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne, mais c'est dans la Bible. Alors, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, si je parle de la pensée positive, je ne vole rien. Je n'ai pas besoin de demander un brevet à quelqu'un. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Parce que nous dit Galates 5 ? Galates 5, à partir du verset 22. Galates chapitre 5, à partir du verset 22. La parole de Dieu nous dit, c'est le fruit de l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire que le fait de prendre la décision de développer cette pensée positive dans mon cœur, c'est-à-dire que je fais attention, je me positionne à pouvoir permettre à ce fruit de l'esprit, à cette semence de grandir en moi. Et ça, c'est important. Ce n'est pas une option, la joie. Ce n'est pas un moment, effectivement, que Dieu choisit, mais Dieu a déposé cette joie comme une graine dans ton cœur, dans ta vie. Et nous avons besoin, avec l'aide, bien sûr, de Dieu, l'aide du Saint-Esprit, de laisser Dieu développer cela. Développer. Oui, Seigneur, apprends-moi à me positionner, à prendre des décisions. Vous savez, la Bible dira quoi ? Le succès. C'est-à-dire que lorsque je prends des résolutions, il y a des résultats derrière, par la grâce de Dieu. Et je voudrais encourager un frère ou une sœur ce matin, au nom puissant de Jésus. Dieu t'a donné la capacité, parce qu'il dit qu'il produit en nous le vouloir et le faire. Ouais. C'est-à-dire que la volonté et la capacité. Amen. Parce qu'on peut avoir effectivement la volonté sans avoir le pouvoir. Mais Dieu produit en nous le vouloir, c'est-à-dire la volonté et le faire. C'est-à-dire l'action. Ouais. C'est ce que nous sommes. C'est ce que Dieu nous donne. Et je voudrais vraiment ce matin, cette volonté que tu as de pouvoir prendre position ce matin dans le nom puissant de Jésus, de pouvoir conserver cette joie. Peut-être si tu as perdu cette joie par la repentance, tu viens te repentir devant Dieu, dire Seigneur pardon parce que je me suis éloigné, Seigneur, de visage, je me suis éloigné de la joie. Je croyais que c'était juste un sentiment éphémère. Je pensais que c'était juste des choses très terre à terre, très primaires. Mais alors que c'est l'essentiel de ma vie parce que la joie m'aide. La joie éloigne toutes sortes de dépressions, morosité, de maladies psychosomatiques, le cœur qui est agressé. J'ai un grand lit, j'ai un grand palais, mais je ne dors pas. C'est bizarre. Quelqu'un disait, je crois que c'est Victor Hugo disait, vaut mieux avoir le sommeil, le bien-être, que d'avoir un beau lit. Alors, vaut mieux, moi, je préfère, s'il y en a qui ont des beaux lits, mais il n'y a pas le sommeil. Parce qu'on est stressé. On se met la pression, inutilement. Comme je dis souvent, moi, les affaires de l'église, ça reste en dehors de la maison. Lorsque j'arrive à la maison, je me concentre sur ma femme et mes enfants. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Oh, c'est dur. Parce que les portables, ça sonne, ça nous absorbe. Le besoin de l'Église, à chaque fois on passe des challenges, des objectifs, ça nous absorbe. Et je pense que c'est pareil aussi par rapport à nos travails, quelles que soient nos fonctions, qu'on soit PDG, qu'on soit DG, qu'on soit responsable de secteur. C'est vrai qu'il y a des charges, il y a des responsabilités. Mais lorsque je suis chez moi, lorsque je suis seul, Seigneur, je vais penser à toi, je vais penser à ma famille. Je vais penser à ma famille. Oui, premièrement, prendre la décision. Deuxièmement, proclamer les bonnes paroles. Proclamer, ça c'est important, parce que nous sommes le peuple de Dieu. La Bible nous dit, lorsque Ézéchiel était devant cette vallée d'ossements desséchés, le Seigneur lui pose plusieurs fois la question, « Fils de l'homme, crois-tu que ces ossements retrouveront la vie ?» L'homme de Dieu est là, face à cela, c'est très compliqué. Il dit, mais Seigneur, toi, tu connais toutes choses. Ça me fait penser un peu à Pierre. S'efface, m'aimes-tu? Mais à un moment, Dieu va dire, effectivement, c'est ton rôle, ta responsabilité. Maintenant, je te dis que ces eaux peuvent reprendre vie. Toi, proclame. Alléluia. Proclame. Et c'est important de proclamer. Je proclame dans ma maison, Seigneur. S'il y a la morosité, je proclame la vie. Je proclame auprès de mes enfants. Peut-être qu'il n'y a pas la vie de Dieu, peut-être qu'il y a l'incrédulité, il y a un combat spirituel, mais je proclame la vie du Seigneur dans la vie de mes enfants. Je proclame sur la vie de mon époux ou de mon épouse. Seigneur, au nom puissant de Jésus, peut-être qu'il y a la maladie qui perdure, mais je sais que la guérison est dans le Seigneur. Alors je proclame cette guérison par tes meurtrissures, Seigneur. Nous avons été guéris au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, proclame sur ta vie. Peut-être que tu as perdu cette joie. Peut-être la morosité a pris la place. D'autres éléments de ce monde ont pris leur place. La Bible dit, est-ce qu'avec tes inquiétudes, tu pourrais ajouter une coudée de ta vie? Non. Les inquiétudes viennent comme abréger justement notre vie. Alors nous avons besoin d'être ces hommes et ces femmes qui proclament sur la base de la parole de Dieu. Tu as dit que la joie, Seigneur de l'Éternel, sera ma force, alors je proclame, Seigneur, ta joie sur ma vie. Je proclame ta joie sur mon foyer, Seigneur. Il n'y a plus de joie depuis longtemps, mais je proclame au nom puissant de Jésus. S'il y a eu des brèches, s'il y a eu des fenêtres, s'il y a eu des portes ouvertes, je ferme ces portes au nom puissant de Jésus. Parce que le Seigneur l'a dit, ce que tu vas lier sur la terre sera lié dans les ciels. Il faut faire de la parole une parole esprit et vie. Il ne faut pas que ça reste simplement dans la dimension théologique. Il ne faut pas que ça reste simplement dans la dimension... Il faut que ça soit esprit et vie en toi. Et il faut le proclamer. Je proclame la joie. Je proclame l'allégresse. Peut-être que ça va être difficile. Alors, je commence à mettre en place des éléments qu'il faut. Alors, si je ne suis pas un gentleman, je n'ai pas l'habitude d'amener des fleurs. Voilà, mes frères, hein, je vous donne quelques pistes. Je pense que ce n'est pas nouveau sous les soleils. Hein. Voilà, je m'arrête chez le fleuriste. Et puis, j'amène quelque chose à mon épouse ou vice-versa. Je parle, c'est vrai, je valorise beaucoup les femmes. Les femmes, vous aussi, hein, quand même, mes sœurs. Hein. Voilà, vous savez ce qu'il aime manger. Hein. Voilà, vous savez ce qu'il aime. Et voilà, favoriser toute cette atmosphère qui va générer la joie. C'est vrai, non? Oh. C'est vrai que c'est... Il faut le faire. Il faut. Bon, je vous encourage. Ce n'est pas, je ne vais pas être très directif, vous avez votre pasteur pour cela, mais voilà, je vous encourage à pouvoir favoriser cette atmosphère. Non, c'est bon, j'aime beaucoup la famille. J'aime beaucoup la famille parce que très tôt, j'ai vu beaucoup de violence justement dans ma famille. Mais mon père, très, très agressif vis-à-vis de ma mère, la violence... La bagarre, ça m'a marqué. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis contre ceux qui agressent les femmes. Parce que je l'ai vu très tôt et ça m'a marqué. Favoriser. S'il faut vous discuter, quitter la maison, allez-y quelque part, parlez tranquillement. On est des chrétiens. On est des enfants de Dieu. C'est vrai. Nous ne sommes pas les gens du monde. Nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Oui, parce que souvent, le comportement qu'on voit dans le monde s'est introduit dans les familles aujourd'hui. Faisons attention, mes frères et sœurs. Faisons attention. Restaurons justement la famille, que toute la gloire revienne au Seigneur. Et je voudrais, pour finir ma réflexion ce matin, vraiment parler de trois choses très, très, très rapides. D'une chose avec deux ou trois sous-titres. Le secret pour garder justement cette joie, maintenir cette joie extraordinaire se trouve premièrement dans cette dimension, peut-être vous connaîtrez, qui est basique, c'est notre identité. Notre identité de fils et de filles de Dieu. Que nous dit sa parole dans les livres de Paul aux Romains, chapitre 8. Vous connaissez le verset premier. La Bible nous dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Amen. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. L'identité d'enfant de Dieu. Je suis fils, je suis fille de Dieu. Le verset 4, de toujours de ce Romains 8, nous dit que les fils et les filles de Dieu sont ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Et cette dimension de l'identité d'enfant de Dieu nous engage sur trois principes. Premier principe, c'est de nous attacher au Seigneur. Là, on est toujours dans la dimension de maintenir la joie, de nous attacher au Seigneur. Que nous dit le même Paul dans 1 Corinthiens, chapitre 6, que vous connaissez aussi, à partir du verset 17. 1 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. S'attacher au Seigneur, premier principe. Il nous dit, mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Je reconnais mon identité. Je suis fils, fille de Dieu, c'est-à-dire j'atteins une dimension de croissance, une dimension de maturité, parce qu'on est enfant, on est d'abord créature, on devient enfant de Dieu, selon Jean 1, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu par la révélation du Christ. Mais tant qu'on n'a pas rencontré Christ, on est créature de Dieu. Et on doit passer du statut d'enfant de Dieu au fils et fille de Dieu. Et pour devenir fils et fille de Dieu, on a cette relation intime avec le Saint-Esprit. On se laisse conduire par l'Esprit, puisque Paul dit, toujours Romains 8, verset 14, que ceux qui sont conduits par l'Esprit sont appelés fils et filles. Sont appelés, c'est-à-dire que c'est les autres qui vous appellent. Votre identité voit en vous cette capacité de fils et de filles. Rester attaché au Seigneur en tant que fils. Deuxième élément, avoir le cœur de Jésus. Avoir le cœur de Jésus. Que nous dit Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Ouais. C'est-à-dire que lorsque j'ai le cœur de Christ, je partage son cœur, je suis en harmonie avec le Seigneur, la joie est renouvelée. Parce que mes intérêts ne sont pas simplement les intérêts terrestres, mais c'est les intérêts du royaume. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Ouais. Pour que cette volonté se fasse, ça se fait à travers toi. À travers toi, ma sœur. À travers toi, mon frère. Et je voudrais finir par ce dernier point, ce dernier principe, c'est aussi avoir le cœur du Saint-Esprit, selon Éphésiens chapitre 6, verset 17. C'est important pour nous de pouvoir cultiver cette joie, de pouvoir combattre avec toutes nos forces tous ces adversaires de la joie, la dépression, comme je l'ai dit, la morosité, tous ces éléments qui sont contraires. Et j'aime beaucoup, vous pourrez lire pour ceux qui aiment la parole de Dieu, je pense que nous aimons la parole de Dieu, prenez le temps de réfléchir, surtout les dernières périodes de la vie de Job. Job 42, lisez du verset 1 au verset 13, on voit un homme de Dieu qui est resté fidèle malgré tout, qui était confronté justement à la solitude, à la mort. On a entendu une sœur qui prie justement pour son papa, je pense que c'est Colette, et au désespoir. Quand vous lisez les thèses de Job, à un moment, il implore Dieu, il défend même sa justice devant Dieu. Il défend même l'autorité de Dieu. On sent Job dans ses écrits, à un moment, qu'il n'en peut plus. Il perd tout, sa femme, ses enfants, tous ses biens. C'était l'un de... Aujourd'hui, si on peut parler des 440... Job était quand même bien, bien, bien placé. Ouais. Il était respectueux, il était sacrificateur. Mais on voit Dieu dans sa grâce au verset 42. Vous pouvez lire chapitre 42, vous lisez les premiers versets, c'est extraordinaire. Job dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je n'ai pas compris, je n'ai pas réalisé la grandeur de ta personne. J'ai dit des choses qui m'ont dépassé. Il est passé par la repentance sincère devant Dieu, l'humilité. Et je pense que c'est important pour nous d'être humbles, quelle que soit les niveaux où Dieu nous élève. Attention, quelqu'un disait attention au vertige. Attention souvent aussi au projecteur. Souvent, ça nous rend aveugles. Mais soyons humbles devant Dieu. Soyons humbles devant Dieu. Tout ce que nous avons reçu, c'est par grâce. Moi qui vous prêche la parole de Dieu aujourd'hui, c'est par grâce. C'est que les talents que Dieu a mis, que ce soit moi, André, son épouse, à chacun d'entre vous, nous rendrons compte, hein, n'oublions pas. À celui qui l'a donné beaucoup, il va être plus exigeant. Ouais, c'est pour ça qu'il faut traiter durement nos corps. Rester dans la fidélité de Dieu, dans une vie de sainteté, une vie de pureté, fidèle au Seigneur. Quel que soit le lieu, quel que soit l'endroit où Dieu nous a placés, Seigneur, c'est ton royaume. C'est ce que j'ai dit, hein, j'aurais pu rester à Saint-Germain. J'avais une offre en plus sur Paris, en même période que le Mureau, à 600 mètres de la Tour Eiffel, une belle église assemblée de Dieu, avec un budget de fonctionnement qui dépasse les 200 000 euros. J'avais cette opportunité. J'ai dit cela aux frères et sœurs. J'ai dit, waouh, que faire ? Et j'avais voilà, cette église à retravailler, à reconstruire. Le Mureau qui était là avec un budget incertain. J'ai dit, Seigneur, voilà, écoute, que veux-tu que je fasse ? Et des fois, on peut transformer la voix de Dieu quand c'est comme ça. Hein. Ah, le Seigneur m'a dit d'aller à Paris. Il y en a beaucoup comme ça. Hein. Et j'avais apprécié justement mon ami Yanis Gauthier qui me disait, non, vaut mieux aller dans le désert avec les seigneurs que rester dans les palais des pharaons sans Dieu. J'ai dit que Dieu te bénisse. J'ai dit, écoute, allons-y. Hein. Allez, le Murietin, on y va. Et regardez aujourd'hui, 3 ans après, gloire à Dieu. Une autonomie, une église qui a retrouvé vie, des personnes ressources qui étaient là, très belles, qui étaient là, qui avaient juste besoin d'un leadership fort, communiquer la joie de vivre, comme le frère a dit. Cette grâce que j'ai, cet enthousiasme d'apporter pourtant les difficultés, il y a des combats, il y a, effectivement. Mais voilà, on regarde à Dieu. On regarde à l'auteur de la joie. Que le Seigneur vous bénisse. Conservons cette joie. Cultivons la joie. Aimez vos familles. Aimez vos épouses. Aimez vos époux. Aimez vos enfants. C'est des richesses énormes que Dieu vous donne. Proclamez les bonnes choses. Même si les résultats ne viennent pas. Même si les maîtresses, c'est difficile. Proclame. Tu réussiras, mon fils. Tu réussiras, ma sœur. Je proclame sur toi que tu seras la tête et non la queue. Proclamez sur la base de la parole de Dieu. Et Dieu, qui est l'auteur de la parole, ne laisse pas venir sa parole sans avoir accompli sa volonté. Le miracle de Dieu viendra sur ta fille. Le miracle de Dieu viendra sur ton fils. Le miracle de Dieu viendra sur ton épouse et ton épouse. Dieu guérira, effectivement, ce membre des familles. Dieu va restaurer ton entreprise, va restaurer ta vie. Mais proclame et prends ces bonnes décisions. La joie du Seigneur sera notre force. Que Dieu vous bénisse. Merci.